Cham philo.
Parce qu'au lycée, la philosophie ne se trouve pas seulement dans les manuels.
Cham philo.
Elle résonne dans chaque question, dans chaque débat de la vie quotidienne.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Cham pour une nouvelle émission de Cham philo en présence d'Alexis Villain qui a bien voulu répondre à ce nouveau sujet de philosophie qui est « Quelle est la véritable valeur de l'art et comment peut-on définir le beau ?»
Oui, alors, quelle est la véritable valeur de l'art? Comment peut-on définir le beau? Vous allez voir que je ne vais peut-être pas répondre à ces deux questions, mais je vais quand même les prendre en considération. Je dirais que la première de ces deux questions, quelle est la véritable valeur de l'art? Elle sous-entend déjà qu'il y aurait une valeur non véritable de l'art. Une valeur non véritable, relativement à laquelle une valeur cette fois véritable pourrait être isolée et sans doute valorisée, puisqu'elle serait justement véritable. Une valeur qui ferait justement la valeur de l'art, tandis qu'une autre valeur, cette fois non véritable, viendrait sans doute réduire l'art à une pratique sans valeur. On remarquera au passage que c'est de la valeur de l'art qu'il est question, et non pas de la valeur d'une œuvre d'art. C'est la pratique artistique qui est interrogée ici, et non pas sa production, son résultat, l'œuvre réalisée.
Dans ce cas, cela nous conduit à éclairer ces deux termes, avant même de commencer à comprendre la question et de pouvoir envisager d'y répondre. C'est quoi une valeur? Qu'est-ce qui caractérise la pratique artistique? C'est bien ça?
Ben oui, parce que vous, je sais pas, mais bon, moi, ce que c'est qu'une valeur, en tout cas, pour moi, ça n'a rien d'évident. Même si y a un usage du parler commun, il y a un usage fréquent du mot valeur, hein. Qui consiste souvent à dire « j'ai mes valeurs », il existe des valeurs individuelles. Alors on peut se poser la question de savoir si dans cet usage, si dans ces expressions, le mot « valeur » a encore véritablement sa signification. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça n'a aucun sens, cette expression de « valeur individuelle », et que c'est une expression qui indique que l'on n'a justement aucune idée de ce que c'est qu'une valeur. Par définition, une valeur, quelle qu'elle soit, elle ne peut pas être individuelle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une valeur, ça sert à évaluer sur fond de communauté. Une valeur qui ne vaudrait que pour un individu, totalement isolé. Ça ne serait pas une valeur, ce serait une qualité, un atout. Par exemple, quand quelqu'un dit « je suis attaché au courage », ce n'est pas une valeur qu'il convoque, mais une qualité. Une qualité qui, à ses yeux, mérite d'être développée. Alors, peut-être va-t-il faire, effectivement, de cette qualité une valeur, c'est-à-dire un horizon. Un horizon qui va guider son action. Mais il n'en reste pas moins que s'il peut faire de cet horizon, s'il peut faire de cette idée, le courage, un horizon qui va guider son action, c'est bien qu'en un sens, il considère que cette action, elle est susceptible de pouvoir être approuvée par plus que lui. Hein, d'où mon idée que c'est sur fond de commun, c'est sur fond de communauté, d'une pluralité que la valeur advient comme valeur. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on évoque des valeurs individuelles, soi-disant individuelles, c'est précisément pour se rattacher au groupe de ceux qui les partagent. Un peu comme si on demandait sur un site de rencontre « moi je suis attaché à la fidélité et toi ?» Hein, c'est là qu'on rencontre souvent ce type d'expression « moi j'ai mes valeurs ». Mais c'est sous-entendu pour dire « j'espère que tu partages les mêmes que moi ». C'est assez fou d'ailleurs le nombre de personnes qui ont des valeurs sur ces sites et qui n'ont aucun sens de ce que c'est qu'une valeur dans la vie réelle. Bon, une valeur, qu'est-ce que c'est? Moi, je propose une définition à cet endroit-là. C'est une idée, la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est la beauté. Une idée qui sert à évaluer un type de réalité pour une communauté, en tout cas sur fond de commun, hein, sur fond d'un partage. C'est à partir de la référence à un ensemble de valeurs qu'une communauté se dessine comme communauté. Bon, à moins donc d'être une bande de jeunes à soi tout seul, il n'existe donc pas de valeur individuelle. On remarquera par contre que dans une société qui réagit par des principes libéraux, il est sûr que l'individualisme est devenu une valeur, puisqu'il s'agit justement de valoriser l'enrichissement individuel, mais il n'est pas interdit de se demander malgré tout si une telle valeur peut être partagée par tous de manière viable pour une société. Autrement dit, il n'est pas interdit de se demander à un moment donné si ce que l'on fait advenir comme valeur, si les idées dont on fait des valeurs, hein, des horizons de pensée et d'évaluation de nos actions, hein, sur fond de communauté, si ce qu'on fait des valeurs vaut toujours comme valeur. C'est-à-dire qu'ici, il y a une question philosophique fondamentale qui est qu'est-ce qui fait la valeur de la valeur? Une valeur, c'est donc une certaine idée à partir de laquelle il est communément possible d'évaluer, de juger un certain type de réalité.
Si on continue ce petit travail d'analyse, est-ce que existe-t-il une idée à partir de laquelle il serait possible d'évaluer la pratique artistique et surtout à partir de laquelle il serait possible d'évaluer la pratique artistique pour ce qu'elle est.
Oui, voilà, avec la définition que je propose ici de Laveur, qui peut encore être retravaillée, hein, je ne dis pas le contraire, mais la question du départ, elle devient effectivement celle que vous posez là. Existe-t-il une idée à partir de laquelle il serait possible d'évaluer la pratique artistique? Et surtout, puisque ce qu'on demande dans la question initiale, quelle est la véritable valeur de l'art? Est-ce qu'il existe une idée qui puisse nous permettre d'évaluer la pratique artistique pour ce qu'elle est, hein, l'adverbe qualificatif véritable, adjoint à celui de valeur, laisse entendre qu'on pourrait très bien appliquer à la pratique artistique une valeur, un mode d'évaluation qui ne serait pas adapté à ce qu'est réellement la pratique artistique. Ce que l'on attend avec notre question, c'est donc de dégager une valeur véritable. Autrement dit, la question que l'on se pose, c'est la question de savoir par quoi l'on apprécie la pratique artistique et dans quelle mesure cette appréciation est celle qui convient. Car on pressent bien que la pratique artistique peut être appréciée pour des raisons qui ne sont pas les bonnes, pour des raisons annexes à la finalité qui est celle de la pratique artistique en tant que telle. Finalité qui reste à déterminer, mais on pourrait dire, si on parvient à déterminer la finalité qui est celle de la pratique artistique, alors on pourra déterminer ce qu'elle vaut, ce que vaut l'art. C'est peut-être la raison pour laquelle il y a une seconde question initialement posée qui fait surgir le beau, la beauté. Est-ce qu'avec le beau, on aurait justement cette idée à partir de laquelle on pourrait évaluer les productions de la pratique artistique pour ce qu'elles sont véritablement? Au contraire, si on n'applique pas la bonne valeur, ça donne une situation comme dans Les Trois Frères. Là, vous voyez le film, le film Les Trois Frères, dans laquelle le commercial des Trois Frères invite les autres chez lui et là, il se vante de ce qui se trouve dans son entrée. Il dit c'est un kundelich. En fait, le ridicule là ici est lié au fait que cette œuvre, on voit bien que elle est appréciée, en tout cas par le collègue de ce commercial, le président de la société ou je ne sais plus qui là, à partir de sa valeur financière. Ah oui, moi j'aime bien l'art, c'est un bon placement. Voilà, on sent ici le ridicule de la situation qui est d'évaluer l'œuvre à partir d'un marché qui en fait une simple marchandise. Précisément, est-ce qu'on saisit ce que c'est qu'une œuvre d'art? Et donc la pratique artistique qui a donné lieu à cette œuvre, en l'évaluant à partir du marché de l'art. Je ne suis pas en train de dire que ce marché n'existe pas, mais je suis en train de dire qu'il n'est peut-être pas propice à nous donner ce qui fait la valeur véritable de l'art.
Là, vous faites référence à l'analyse pascalienne du ridicule.
À cause du ridicule, j'utilise le mot ridicule. En effet, pour Pascal, il y a ridicule lorsqu'il y a interversion. Vous savez, pour Pascal, il y a trois ordres. Cœur, l'esprit, le corps. Lorsqu'on juge d'un des ordres, les réalités qui se déploient dans un de ces ordres tirent à partir d'un critère qui appartient à un des autres ordres, eh bien, on est soit dans le ridicule, soit dans le tyrannique. Voilà. J'avais ça. Si je reprends, donc, avec ce qu'on a dit juste avant sur la valeur, sur ce qu'est une valeur, on devrait pouvoir produire une autre réponse à la question de savoir quelle est la véritable valeur de l'art et pourquoi pas aussi comment définir le beau. Une autre réponse que le sempiternel, chacun apprécie la pratique artistique différemment, chacun a son idée du beau, pensif qui est celui d'un monde où l'individualisme est devenu la seule référence, où l'individu est devenu la valeur. Pensif d'un monde où l'individualisme est devenu la seule référence, mais qui en fait ne veut rien dire du tout, sinon que rien d'autre que mon intérêt individuel n'a de valeur. Est-ce que mon intérêt individuel peut me permettre d'évaluer pour ce qu'elle est la pratique artistique? Avec ce qu'on a dit concernant la valeur, en tant qu'il s'agit donc d'une idée sur laquelle du commun se dessine, on doit aussi pouvoir aller au-delà de ces réponses qui consistent à culturaliser l'approche. Des réponses qui consisteraient à dire « Ah bah, ça dépend des cultures, la véritable valeur de l'art, bah, ça dépend des cultures, ça dépend des communautés. » Il est indéniable que les valeurs ont une histoire, une géographie. Mais ce qui fait la valeur de la valeur, par-delà les tribulations historiques et géographiques, ce qui fait la valeur de la valeur et qui permet de la reconnaître comme valeur, c'est le commun qu'elle rend possible, le partage qu'elle rend possible. On pourrait dire que, quelque part, ce qui fait la valeur de la valeur, c'est sa partageabilité. Peut-être pas un partage effectif, mais un partage possible. C'est la possibilité d'un partage. Moi, je propose là, ici, une définition de cet ordre-là. Hein. Donc, une valeur, c'est une idée donc, qui permet d'évaluer, etc. Mais une idée qui est susceptible d'être partagée. Qui est susceptible, et qui même peut-être qui devrait être partagé. C'est-à-dire que finalement, cette notion même de valeur, elle s'articule aussi à une préoccupation pour ce qui mérite d'être partagé. Quelque chose qui tourne autour de l'idée d'universel. C'est ça. Partageabilité, néologisme, ce terme n'existe pas, mais je le verrais bien assez bien se substituer à cette notion d'universel qu'on n'arrête pas de remettre en question. C'est sa partageabilité qui va faire de la valeur une valeur. Ce ne sont pas les communautés différenciées qu'une valeur identifie qui définissent la valeur en tant que valeur. C'est la partageabilité qui anime cette valeur et qui en fait une valeur. Plutôt que de tomber dans ces poncifs, je les cite, la véritable valeur de la pratique artistique dépend du jugement de chaque individu. Ou encore, la véritable valeur de la pratique artistique dépend des groupes, des communautés, des sociétés dans lesquelles ces pratiques se développent. Plutôt que de tomber dans ces poncifs, poncifs qui anéantissent tout effort philosophique, plutôt que de tomber dans ces poncifs, donc encore une fois, qui répondent à la question posée par son anéantissement en tant que question, et non pas par la mise en évidence de ce que la question posée a de questionnant, on peut chercher à partir de quelles idées, ou de quelle idée peut-être même au singulier, la pratique artistique peut être appréciée pour ce qu'elle est.
Vous n'avez pas forcément répondu à la question.
Tout à fait, tout à fait. J'ai pas répondu à la question. Bon, j'estime que mon travail, là, c'est surtout été d'évacuer des réponses qui, au lieu de dévoiler ce que la question a de problématique, et donc qui fait que la question ne peut pas ne pas se poser, des réponses qui, en fait, occultent, évacuent la dimension problématique de la question. J'aurais au moins fait ça. Après si je devais m'attacher à produire une réponse, moi, je développerais bien deux thèses qui me sont assez chères. La première qui consiste à dire que la pratique artistique, elle ne relève pas du besoin, mais du désir, qu'elle s'adresse au désir en tant que tel. Et c'est donc en tant qu'être de désir qu'elle nous intéresse. Mais bon, il faut le reconnaître, pour donner du poids à cette thèse et pour montrer qu'elle pourrait permettre de constituer une forme de réponse à la question, il faudrait que je précise ce qu'il faut entendre par ces termes de désir et de besoin. Voilà. Et puis l'autre thèse que je développerais si je m'attachais à répondre à la question, ce serait que la beauté, c'est sans doute l'autre nom de l'objet du désir. Voilà. Bon, mais c'est clair que j'ai pas fait le taf, quoi.
Merci beaucoup, Alexis Villain. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur Cham Philo.
Cham Philo.
Parce qu'au lycée, la philosophie ne se trouve pas seulement dans les manuels.
Cham Philo. Elle résonne dans chaque question, dans chaque débat de la vie quotidienne.